Dr. Roderick C. Meredith. Le vrai Jésus-Christ. Frères et sœurs, j'aimerais aujourd'hui aborder un sujet qui a trait à la Pâque, qui est proche. Ce ne sera pas le sermon classique qu'on attendrait pour la circonstance. De fait, j'espère que d'ici à quelques semaines, quelqu'un d'autre donnera un sermon à propos de la signification de la Pâque. Ce serait là une bonne idée, car le monde est dans la confusion la plus totale à propos de tant de choses. Depuis trop longtemps, des dizaines, voire des centaines de millions d'adeptes de différentes églises, qu'elles soient protestantes, orthodoxes ou catholiques, entendent à propos de Jésus-Christ des choses qui sont totalement fausses. Autrefois, nous étions nombreux à entretenir toutes sortes de faux concepts dans notre esprit. Même nos jeunes, qui ont probablement grandi dans l'Église, ont été influencés par toutes ces idées que le monde entretient à propos de Christ. Il y a, entre autres, ce cliché de l'enfant Jésus, né dans une crèche il y a environ 2000 ans. Certains vont croire qu'il est né d'une vierge, d'autres n'y croient pas vraiment. On s'accorde généralement pour dire qu'il était un gentil petit garçon juif, quoique, là encore, certains ne semblent pas y croire, à en juger par les représentations qu'ils nous font de lui, des représentations qui n'ont vraiment rien de typiquement juif. On dira de lui qu'il avait beaucoup de charisme, qu'il savait enseigner aux foules et qu'il leur parlait d'amour. Les idées les plus folles ont été avancées par ceux qui vont s'appuyer sur certains passages des Écritures pris hors contexte. Aujourd'hui, je tiens à vous parler du vrai Jésus-Christ. J'espère qu'il me sera possible de vous en donner une description fidèle et que celle-ci restera gravée dans votre esprit. Qui était-il? D'où venait-il? Pour quelle raison est-il venu? Pour répondre à toutes ces questions, il nous faut remonter dans le temps, jusqu'à une époque où il n'y avait rien d'autre que deux êtres spirituels majestueux. Plus tard, nous apprendrons que l'un d'eux allait jouer le rôle d'un père et l'autre celui d'un fils. Ils étaient tous deux des êtres spirituels sublimes, mais l'un d'eux, même s'il était lui aussi un être divin et donc éternel, avait accepté en parfaite humilité de se soumettre à l'autre pour toujours. Il est question de tout cela dans Jean chapitre 1 verset 1, un passage des Écritures qui remonte encore plus loin dans le temps que Genèse 1 verset 1, comme M. Armstrong le répétait souvent. Voyons donc Jean chapitre 1 verset 1 et 2. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Il n'est pas dit quand. Une chose est certaine, on ne parle pas ici d'une époque située 6000 ans en arrière. On ne parle pas non plus de cette époque où le Logos, le futur Jésus-Christ, créa l'univers matériel. Un événement qui pourrait fort bien remonter à plusieurs milliards d'années, à l'époque du soi-disant Big Bang, comme on l'appelle maintenant. Non, on parle ici de l'éternité passée, quand il n'y avait rien d'autre que les deux membres de la famille divine mentionnés dans Genèse chapitre 1, versets 1 et 2. Jean 1, verset 3. « Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. » Ici, il est question de Christ. C'est lui qui a fait toutes ces choses, agissant au nom du Père et sous son autorité. Oui, c'est lui qui a créé toutes choses. C'est lui qui a créé le soleil, la lune et les étoiles. C'est lui qui a créé ces millions de galaxies qui, chacune, sont composées de milliards d'étoiles. C'est lui qui est à l'origine de ces beaux couchers de soleil. Lui encore, à qui nous devons ces beaux petits-enfants aux mines radieuses et aux regards confiants. Christ est la source de tout ce qui est bon et juste. Verset 4. En elle était la vie, et la vie était la lumière du monde. Dieu a tout fait par l'intermédiaire de la parole. C'est Christ, celui qui est mort pour vos péchés et les miens. C'est Christ qui a fait toutes ces choses. Il était la lumière qui nous montrait comment vivre notre vie. Il nous donnait l'exemple, un exemple que nous ferions bien d'imiter. La plupart des théologiens sont conscients de l'exemple qu'il nous a laissé. Ils savent que Christ incarnait le juif typique et qu'il observait le sabbat. Ils ne le contestent pas. Ils savent qu'il observait les jours saints annuels. Cependant, ils trouvent le moyen de contourner les Écritures pour leur faire dire que nous n'avons plus à nous plier à ces directives qu'elles nous donnent. Verset 5. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il était donc celui qui devait venir dans le monde. Verset 10. Elle, la lumière, c'est-à-dire Jésus-Christ, était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. En effet, nous le savons, il y a 2000 ans, Christ est venu dans le monde en tant qu'être humain. Comprenez bien que lorsque Christ se promenait aux abords de la mer de Galilée, il pouvait se dire à lui-même, j'ai fait cette mer. Je sais que si nous décidions de marcher sur les eaux comme Pierre avait commencé de le faire, il est fort probable que nous prendrions peur comme lui. Pourquoi Christ put-il le faire sans crainte? C'est parce qu'il jouissait d'une foi parfaite. Sa connaissance préincarnée lui revenait à la mémoire et lui rappelait que c'était lui qui avait créé cette mer. C'était lui aussi qui avait créé les cieux et la terre, ainsi que la loi de la gravité. Bref, tout ce qui est à Christ que nous le devons. Christ est celui qui nous a fait mâle et femelle. Évidemment, durant ce qu'il est convenu d'appeler l'époque victorienne, parler de sexe passait pour un sujet tabou. À présent, on en parle avec désinvolture, on le dégrade et on en abuse honteusement. On va jusqu'à réclamer que des hommes soient admis dans les toilettes des femmes. On cherche à pervertir toute chose. Dieu n'a jamais voulu qu'il n'y ait aucune différence entre les sexes. Mais l'humanité a cette tendance à vouloir aller d'un extrême à l'autre. Vous savez, Dieu n'est pas gêné par ce qui a trait au sexe. Il en est l'auteur. C'est lui qui a conçu le corps humain, le corps de l'homme et celui de la femme. Dieu a créé cela par l'intermédiaire de Christ. Dieu voulait que les couples s'aiment et qu'ils deviennent une chair. Il voulait que nous ayons une progéniture. Christ et le Père voulaient que nous nous reproduisions, que nous formions des familles et que nos enfants deviennent eux aussi des membres de la famille divine. C'était là son intention. Il ne ressentait donc aucune gêne par rapport à toutes ces choses. Il voulait seulement qu'on s'en serve à bon escient. Poursuivons dans Jean chapitre 1 au verset 11. Jean 1, verset 11. Elle, la parole, Christ, est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, soit dit en passant, et beaucoup d'entre vous le savent, les commentaires bibliques nous disent que le nom d'une personne est représentatif de tout ce qui la caractérise, son caractère, les valeurs qu'elle défendra, ses aspirations, ses attributs, sa réputation. Poursuivons, versets 12 à 14. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. À ce moment-là, en sa qualité de Fils unique engendré par le Père, il n'avait pas encore été né de Dieu, comme nous le serons nous-mêmes un jour, au moment de notre transformation d'être physique en être spirituel. Ainsi, Christ est le seul à avoir été conçu physiquement par le Père, par l'entremise de la puissance du Saint-Esprit. Et n'oublions pas que c'est lui aussi, alors qu'il était le Logos, qui avait créé les cieux et la terre. Veuillez à présent vous reporter à Genèse, le chapitre 1. Genèse, chapitre 1 et le verset 1. Au commencement, Dieu. Comme on nous l'a souvent répété, ici le terme hébreu pour Dieu est Elohim, un mot qui désigne en fait une pluralité de personnes, comme le terme famille par exemple. Genèse 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Verset 2. La terre était informe et vide. On devrait dire la terre devint informe et vide. Tohu et bohu dans l'original, c'est-à-dire dans un état chaotique et de confusion. Nous savons bien sûr que cet état fut la conséquence de cette destruction pré-adamique causée par la rébellion de Satan. Donc la terre était devenue informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Dieu n'était évidemment pas à l'origine de tout cela. Cela s'est donc produit par la suite. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit, verset 3, ici c'est Christ qui parle, en fait le Logos, car Christ n'était pas encore né. Comprenez bien que Dieu parle toujours par l'intermédiaire de cette deuxième personne de la famille divine, qui allait plus tard apparaître en la personne de Christ, afin de devenir notre Sauveur. Verset 3, Dieu dit, Christ dit, que la lumière soit, et la lumière fut. Puis Dieu se mit à refaçonner les cieux et la terre, et il y plaça l'homme et les animaux, ainsi que toutes ces plantes et toutes ces belles fleurs, toutes ces choses et tous ces êtres qui allaient pouvoir se reproduire, chacun selon son espèce. Plus loin, au verset 26, nous lisons « Puis Dieu dit, faisons, notez l'expression « faisons », qui prouve encore une fois l'existence de plus d'une personne. En effet, Dieu et le Logos, Christ, sont deux personnalités différentes. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Précédemment, il avait été question de toutes ces créatures et de toutes ces plantes auxquelles Dieu accordait la capacité de se reproduire, chacune selon son espèce. À présent, nous apprenons que Dieu a l'intention de se reproduire lui aussi, en nous. C'est pourquoi il nous a créés à son image, selon son espèce. Poursuivons. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine, ici les questions de gouvernement. L'homme allait être mis en charge de tous les animaux et de toutes les créatures de la terre. Verset 27, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Je suppose qu'il est inutile de préciser que la femme fut évidemment aussi créée à l'image de Dieu. Verset 28, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez. Son premier commandement n'était donc pas de faire preuve d'une pruderie excessive et de s'abstenir de tout sexe. Adam et Ève avaient tous deux été créés en tant qu'adultes. Ils étaient les seuls êtres humains sur terre, et Dieu leur commandait donc d'aller l'un vers l'autre et de procréer des enfants. « Aimez-vous, ayez des enfants, » leur commanda-t-il. « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. » et assujettissez-la. Ainsi, dès le début, l'homme fut créé à l'image de Dieu. Cela fut accompli par le Logos, le porte-parole de Dieu, celui qui allait plus tard se dépouiller de la gloire qu'il avait auprès du Père pour devenir celui qui nous est connu maintenant sous le nom de Jésus-Christ. Allons maintenant à 1 Corinthiens, le chapitre 10, où nous trouverons des versets qui nous sont bien connus. Je veux tout de même en parler, afin que cela reste gravé en notre mémoire. Qui était ce Jésus-Christ qui est mort pour nous? Qui était le vrai Jésus-Christ? 1 Corinthiens 10, versets 1 à 4. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. C'est Christ qui les enseignait. celui qui allait plus tard apparaître en tant que Jésus de Nazareth, né d'une vierge, né d'un être humain. Cette personnalité était donc le Christ. Il était à présent le rocher d'Israël. Il était le Dieu de la nation d'Israël. C'est lui qui avait parlé à Abraham, à Isaac et à Jacob. Ce n'était pas Dieu le Père, et je vais vous le montrer. Comprenez bien que le Père n'a jamais eu de rapport direct avec eux. C'est Christ, comme il est dit, et ce rocher était Christ. Verset 5. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Verset 6. Or ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. Dieu nous montre ainsi que nous devons craindre de faire le mal. Le péché mène à la mort. Romains 6, verset 23 dit que le salaire du péché, c'est la mort. Christ a dû acquitter cette dette à notre place en mourant pour nous. Christ n'était donc pas content d'eux, et ces épreuves qu'il subissait devaient servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Verset 7. Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'entre eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ils s'étaient manifestement enivrés et livrés à des orgies sexuelles. Ils venaient de sortir du pays d'Égypte où ils s'étaient, semble-t-il, habitués à ce genre de débauche. Et c'est à cela qu'ils s'empressèrent de retourner dès qu'ils s'éloignèrent de Dieu. Verset 8. Ne nous livrons point à la débauche, comme quelques-uns d'entre eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Il ne s'agissait donc pas d'un petit groupe de délinquants. Il se composait de 23 000 personnes. Dieu n'hésita pas à les faire mourir sur le champ pour montrer à quel point il désapprouvait le mauvais usage qu'ils faisaient du sexe. Tout cela devait donc leur servir d'exemple, et à nous aussi par extension, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Au verset 9, on nous dit encore, « Ne tentons point le Seigneur comme le tentèrent quelques-uns d'entre eux. » Et qui tentèrent-ils? Ce n'était pas Dieu le Père, car il n'était pas présent parmi eux. De toute façon, ce n'est pas lui qui était le Dieu d'Israël. Non, dans toutes ces situations, c'était de Christ dont il était question. Christ est celui par qui le Père communiquait avec la nation d'Israël. Souvenez-vous-en. Concentrons-nous maintenant sur un autre exemple à propos du même thème. Allons pour cela vers Jean, le chapitre 8. Au verset 56, Jésus dit aux Juifs, Jean 8, verset 56, « Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. » Cela se comprend, car Jésus était le Dieu d'Abraham. Hélas, la plupart des gens ne comprennent pas cela. Les Juifs non plus, d'ailleurs. C'est la raison pour laquelle ceux-ci répliquèrent au verset 57 « Tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham ?» Alors Jésus leur répondit « en vérité, je vous l'ai dit, avant qu'Abraham fût, je suis. » On peut attribuer un double sens à cette réplique de Jésus. Certes, Jésus existait du temps d'Abraham. Mais notez que lorsque Jésus emploie le terme « je suis », c'est ce même terme qu'il employait dans Exode 3, verset 14, lorsqu'il se révélait à la nation d'Israël comme celui qui a la vie en tant que qualité intrinsèque, en d'autres mots, comme le Dieu de l'Ancien Testament. Les Juifs comprirent fort bien ce qu'il entendait par là, et c'est pourquoi ils allaient le tuer. Pas de doute là-dessus. La plupart des protestants ne comprennent pas cela. Ils ne saisissent pas que Jésus était celui qui s'était dévoilé au peuple d'Israël en tant que son Dieu, le Dieu de l'Ancien Testament. Les Juifs de l'époque de Jésus le comprenaient, eux, et c'est pourquoi on lit au verset 59 « Ils prirent des pierres pour les jeter contre lui. » Heureusement que Jésus put leur échapper comme par miracle, probablement parce que le Père les frappa d'aveuglement et de confusion. Retenez donc qu'en s'identifiant en tant que « je suis », il révélait simultanément qu'il était le Dieu de l'Ancien Testament, le Dieu de la nation d'Israël. Veuillez maintenant vous reporter à 1 Jean, le chapitre 4, et le verset 12, où il est dit très clairement: Personne n'a jamais vu Dieu. Plusieurs autres passages des Écritures expriment la même chose, mais celui-ci le dit on ne peut plus clairement. Certains vont s'étonner, disant: Quoi? Pourtant Moïse voyait Dieu et lui parlait face à face. De même Abraham n'a-t-il pas vu Dieu? Et ne lui a-t-il pas parlé au moment où Dieu s'est dirigé vers Sodome dans l'intention de causer sa destruction? Comment pourrions-nous nier ces faits? Nous voilà devant un dilemme de taille. Comment allons-nous pouvoir nous en sortir? Facile, à condition de comprendre que lorsque Jean disait que personne n'a jamais vu Dieu, il parlait de Dieu le Père. Par contre, Israël voyait le Logos, le porte-parole de Dieu, le Dieu d'Israël qui allait venir plus tard en la personne de Jésus-Christ. C'est Dieu le Père qu'il ne s'est encore montré à personne. Ne pas comprendre ce point mettrait la Bible en conflit avec elle-même. Revenons à présent à Exode, le chapitre 24. Peu après que Dieu, je veux dire Jésus-Christ, eût donné les 10 commandements. C'est lui en effet qui avait déclaré: Je suis le Dieu qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. Au verset 9, nous lisons, Exode 24, verset 9, Moïse monta avec Aaron, Nadab et Abihu et 70 anciens d'Israël. Quelques versets plus loin, nous apprenons que Josué, serviteur de Moïse, était là lui aussi. Le verset suivant dit que ces hommes virent le Dieu d'Israël. Contradiction là encore? Non. Si vous comprenez que le personnage divin qu'ils virent n'était pas Dieu le Père, mais celui qui se manifestera plus tard en la personne de Jésus-Christ, le Dieu d'Israël. Frères et sœurs, lorsque vous entendez dire à propos du roi David qu'il adorait et louait le Dieu des armées d'Israël, lorsqu'on vous parle de Josué, qui tombe la face contre terre devant cet être majestueux qui s'avance vers lui, qu'il lui demande qui il est, et qu'il obtient pour réponse: Je suis le chef de l'armée de l'Éternel. De qui s'agit-il? Il ne s'agit pas de Dieu le Père, mais de Christ. Oui, lorsque David louait l'Éternel, tout au long des psaumes, c'était le Dieu d'Israël qui louait, Christ. De même, Abraham parlait non à Dieu le Père, mais au Dieu d'Israël, Christ. Il en est de même en ce qui concerne les 74 hommes assemblés avec Moïse sur le mont Sinaï. Eux aussi voyaient le Dieu d'Israël, Christ. Exode, chapitre 24, verset 10, ils virent le Dieu d'Israël. Sous ses pieds, c'était comme un ouvrage de saphir transparent, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Il n'étendit point sa main sur l'élite des enfants d'Israël. Ils virent Dieu et ils mangèrent et burent. Encore une fois, ce n'est pas Dieu le Père qu'ils virent, mais le Dieu d'Israël, Christ. Tournons-nous à présent vers Matthieu chapitre 22, où Jésus s'adresse aux pharisiens, disant, Matthieu 22, verset 41, Comme les pharisiens étaient assemblés, Jésus les interrogea en disant, Que pensez-vous du Christ, c'est-à-dire le Messie, loin de l'Éternel? De qui est-il le Fils? Ils lui répondirent, De David. Cela était conforme à ce qu'ils avaient toujours enseigné, à savoir que loin de l'Éternel serait fils de David. Christ savait bien sûr qui il était, et c'est pourquoi il les mit au pied du mur. Verset 43, Et Jésus leur dit, Comment donc David, animé par l'Esprit, l'appelle-t-il Seigneur? Comment David pouvait-il appeler son fils Seigneur? Nous savons bien sûr que Christ était le Dieu de David. Cependant, humainement parlant, Christ naquit plus tard de la Vierge Marie. Ainsi, par cette lignée, il était aussi le fils de David sur le plan humain. Mais cela semblait dépasser leur capacité de compréhension. Christ se met alors à citer Psaume 110, verset 1, mais je trouve que dans Matthieu 22, verset 44, c'est exprimé avec encore plus de clarté. Voyons-le donc dans Matthieu 22, verset 44. Le Seigneur, Dieu le Père, a dit à mon Seigneur, David, du temps qu'il était roi d'Israël, Aurait-il dû s'incliner devant un autre Seigneur? Non, bien sûr. Reprenons. Le Seigneur, Dieu le Père, a dit à mon Seigneur, le Seigneur Dieu des armées d'Israël, qui était donc de ce fait aussi le Seigneur de David, Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Verset 45. Si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils? Nul ne put lui répondre un mot. Et depuis ce jour, personne n'osa plus lui proposer des questions. Par ces questions, il leur avait définitivement cloué le bec. Il avait réussi à les convaincre qu'ils ne comprenaient pas leurs propres écrits. Évidemment, c'est parce qu'ils étaient aveuglés. Jésus parlait sans cesse des pharisiens, les chefs spirituels de la nation. On doit les respecter, mais il ne faut pas suivre leur exemple. Certes, ils peuvent nous fournir certaines connaissances techniques, mais comprenez bien que, spirituellement, ils étaient terriblement dans l'erreur lorsqu'ils changèrent le jour où l'on doit observer la Pâque, et ils ne l'observaient pas non plus de la bonne façon. Ils commettaient aussi beaucoup d'autres erreurs dans d'autres domaines. Par exemple, ils avaient perverti la loi de Moïse en y apportant bien des changements. Et c'est pourquoi Jésus nous enjoint de ne pas suivre leurs enseignements. Ils étaient aveugles et par-dessus le marché têtus et animés d'un esprit manifestement très charnel. En résumé, le Seigneur a dit à mon Seigneur, nous enseigne que le Seigneur de David était celui qui allait devenir Christ. Cela devrait maintenant nous aider à mieux comprendre certains versets qui auraient pu nous intriguer dans le passé. Reportons-nous maintenant à Genèse, le chapitre 18, pour élaborer encore plus sur un point que nous avons abordé précédemment. On se souviendra de ce passage où Christ, on mentionne l'Éternel, mais nous savons que c'est Christ, où Christ donc était en route pour détruire Sodome et Gomorrhe. Au verset 16, il est dit, Genèse 18, verset 16, ces hommes se levèrent pour partir, et ils regardèrent du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Par ces hommes, il faut comprendre qu'il s'agissait de deux anges et de celui qui allait devenir Christ. Verset 17. Alors l'Éternel, Christ, dit, Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Il avait l'intention de détruire Sodome et Gomorrhe. Bien sûr, Abraham était conscient de ce qui allait se passer, et il se mit alors à plaider la cause de ces villes. N'oublions pas que son neveu Lot habitait à Sodome. Au verset 24, on le voit qui commence à dire, Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Les feras-tu périr aussi, et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Non, je ne détruirai pas la ville à cause de ces 50 justes. Plus loin, au verset 29, il revient à la charge, disant, Peut-être s'y trouvera-t-il 40 justes. Les feras-tu périr aussi? Non. Puis il diminue le chiffre à 30, puis à 20. À nouveau, Christ lui assure qu'il n'y aurait pas de destruction à cause d'eux. Finalement, au verset 32, Abraham ose une dernière tentative avec seulement 10 justes. Et une fois de plus, l'Éternel lui assure qu'il épargnerait la ville à cause de ces 10 justes. Il est donc clair que Christ savait cette ville si corrompue qu'il n'aurait d'autre alternative que de la détruire. Abraham fit de son mieux pour l'en dissuader. Son attitude est conforme à l'esprit de Luc 18, où Dieu nous encourage à ne pas nous relâcher lorsque nous avons une requête à lui présenter. C'est là en effet qu'il est question de cette veuve qui ne cesse d'importuner le juge inique. À combien plus forte raison devrions-nous alors insister auprès de Dieu pour qu'il nous écoute lorsque nous ne savons que faire? Ou que nous ne comprenons pas certaines choses, ou que nous ne pouvons voir nos fautes. Cela est conforme à la volonté de Dieu, et il l'approuve. Non seulement il l'approuve, mais il le souhaite. Ainsi Abraham plaidait la cause de ses villes devant l'Éternel. Au verset 23, nous le voyons qui lui dit, Feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Dieu ne s'irrita pas à cause de son insistance. Abraham était très sincère. Il n'abandonna pas et maintint la pression, passant graduellement de 50 justes à 10. À la fin du verset 25, on le voit même qui ose dire à l'Éternel, Celui qui juge toute la terre n'exercera-t-il pas la justice? Abraham savait pertinemment à qui il parlait. Il savait qu'il s'adressait au juge de toute la terre. Évidemment, nous savons qu'en dernier ressort, Dieu le Père est le juge suprême. Mais dans ce cas particulier, Abraham exerçait son plaidoyer en présence de celui à qui le Père avait remis toutes choses. Veuillez à présent vous tourner vers Exode chapitre 18. Ici, nous voyons Jéthro, le beau-père de Moïse, qui offre des conseils à son gendre lorsqu'il voit à quel point ce dernier croule sous la lourde tâche qu'il s'est volontairement imposée. C'est que Moïse devait non seulement enseigner les voies de Dieu à la nation, il s'était même cru obligé de prononcer un jugement sur le moindre cas qui se présentait parmi le peuple. Les gens du monde des affaires voient dans l'intervention de Jéthro le début du principe de la gestion d'une entreprise, recourir à un transfert de responsabilité. Jéthro cherchait à convaincre Moïse du bien-fondé d'une telle pratique. Il lui disait: Accepte de déléguer certaines responsabilités aux hommes que tu auras choisis. Cela allégera ta tâche. Au verset 20, il lui dit: Enseigne-leur les ordonnances et les lois. Voilà un autre point qu'il nous faut comprendre, frères et sœurs. Certains pensent que Dieu, le Père, nous aurait uniquement donné les 10 commandements. D'autres pensent qu'il nous aurait donné des ordonnances et des statuts, mais que Christ nous est ensuite arrivé porteur d'une grande loi d'amour. Non, ce n'est pas ainsi que les choses se sont passées. Comprenez bien que c'est à Christ, le Dieu d'Israël, que nous devons les 10 commandements, la loi, de même que ses ordonnances et ses statuts qui viennent s'ajouter à la loi pour la compléter. Ainsi, c'est Christ qui a dit que l'homosexualité est une pratique vile et Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. La Bible nous livre la pensée de Christ. Et Christ, nous le savons, est Dieu. Il est aussi le Logos, le porte-parole de Dieu. Alors, lorsqu'il vous arrivera de lire à propos d'un homme dont Dieu ordonne qu'il soit saisi et exécuté, comprenez que c'est Christ qui rend ce jugement. Et nous ne parlons pas ici du doux Jésus aux cheveux longs, assis sur un âne et arborant 2 doigts en forme de V. Non, cela correspond à un faux Christ. Le Christ de la Bible est, lui, l'Éternel, le Dieu des armées d'Israël. Cela ne l'empêche pas d'être un Dieu d'amour. Après tout, n'a-t-il pas donné sa vie pour nous? Cependant, il est aussi un Dieu doté d'une grande puissance. Il ne plaisante pas avec le péché. Il est celui qui nous a donné les statuts. C'est lui qui a dit: Tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme, car ce serait une abomination. Et toutes ces autres choses qu'il nous ordonne émanent toutes de lui. C'est Christ qui nous enseigne comment vivre. C'est de Christ que nous viennent tous ces statuts dont il est question dans l'Ancien Testament. Ces statuts définissent le véritable christianisme. Sommes-nous aujourd'hui tenus de les observer tous selon la lettre? Non, mais le Nouveau Testament montre que nous les observerons selon l'Esprit, car le principe sous-jacent doit néanmoins être maintenu. Ainsi, nous continuons aujourd'hui à observer la Pâque, mais nous avons renoncé à l'agneau rôti et aux herbes amères pour adopter les symboles du vin et du pain sans levain, conformément à l'exemple que Christ nous a donné. Le Nouveau Testament montre que nous ne souscrivons plus au ministère de la mort. Cela était seulement en vigueur pour un temps, en tant que code civil pour une nation charnelle. Cela dit, le principe s'applique toujours. Ces péchés peuvent-ils toujours mener à la mort? Oui, ils le peuvent. Par exemple, la Bible dit clairement que l'homosexualité et toute forme de perversion, y compris la bestialité, mèneront à la mort. Est-ce à l'Église qu'il reviendra d'appliquer la sentence? Non, Dieu s'en chargera. Si nous ne nous repentons pas de commettre de tels actes, Dieu veillera à exécuter la sentence. L'Église n'a plus cette responsabilité. Je ne peux pas tout aborder dans le cadre d'un seul sermon, mais comprenez bien que c'est Christ qui, au nom de Dieu le Père, nous a apporté et enseigné toutes ces choses qui doivent faire partie de la vie d'un vrai chrétien. Christ était le Dieu de la nation d'Israël. C'est lui qui a déclaré, Je suis le Dieu qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. Observez tous mes commandements. Vous n'aurez pas d'autre Dieu devant ma face. C'est lui qui a remis les 10 commandements à Moïse. C'est lui qui nous a donné le sabbat. Ce n'est pas Dieu le Père. D'ailleurs, en venant dans la chair, ne nous a-t-il pas donné un bon exemple en l'observant continuellement selon sa coutume? Bien sûr que Dieu le Père approuvait cela. Après tout, le Fils ne disait-il pas qu'il était venu faire la volonté du Père? Donc Christ était le porte-parole du Père, celui qui nous transmettait sa volonté en parole et en action. C'est lui qui nous a donné les lois, les ordonnances et les statuts de Dieu, ainsi que la forme de gouvernement qui existe dans l'Église. C'est lui qui établit les leaders qui devront veiller sur son peuple, l'instruire et le conseiller. Il n'est pas question de voter dans l'Église. Les leaders sont nommés. Et cette pratique est clairement mise en évidence dans Exode chapitre 18 et beaucoup d'autres passages qui montrent comment les leaders en place en nomment ensuite d'autres. Cette façon de procéder est la voie chrétienne. Elle vient de Christ qui l'a établie, lui qui est à la tête de l'Église. Il ne change pas selon ce qu'il dit, Je suis l'Éternel, je ne change pas. On trouve un énoncé similaire dans Hébreux 13, verset 8. Où il est dit, Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Ce sont donc là des structures immuables. Après votre mort, quand vous comparaîtrez devant Dieu, est-ce Dieu le Père qui vous jugera? Non, comprenez-le bien. Et c'est ce que nous voyons en consultant la Bible du livre de la Genèse jusqu'au livre de l'Apocalypse. Dieu s'est toujours adressé aux êtres humains par l'entremise du Logos. Le porte-parole de Dieu, le Dieu des armées d'Israël, celui qui allait venir en la chair en tant que Jésus-Christ. Jamais Dieu le Père n'a eu de rapport direct avec aucun d'entre nous, et il n'en aura pas plus lorsque nous passerons en jugement. Pour bien comprendre cela, rendons-nous à Jean au verset 21 du chapitre 5. Jean 5, verset 21, Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. En effet, n'est-ce pas Christ qui a dit « Je suis la résurrection et la vie » Ainsi, certes, le Père ressuscite, mais il le fait par l'intermédiaire de Christ. Puis au verset 22, « Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. » Notez-le, lisez aussi attentivement pourquoi le Père en a décidé ainsi. C'est au verset 23, « Afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. » Il nous faut donc honorer le Fils comme le Père, car le Père, de même que le Logos, sont intimement liés l'un à l'autre et en totale harmonie depuis l'éternité. Ils sont en totale harmonie quant à leur façon de penser, d'agir et de juger, ayant travaillé et communiqué ensemble depuis des temps immémoriaux. Parce que le Père a totalement confiance en Christ, c'est à travers lui qu'il communiquera avec les êtres humains. Et il nous demande par conséquent de nous soumettre à lui et de l'honorer. C'est Christ dont nous allons célébrer la mort à l'occasion de la Pâque. C'est lui qui est notre Rédempteur, lui aussi qui sera notre juge en fin de compte. Il exercera alors un jugement au nom du Père. Il en est digne car le Père a ordonné qu'on honore le Fils comme on honore le Père, et il a remis tout jugement entre ses mains. N'oublions pas ce qui est dit à la fin du verset 23. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Il faut donc prendre ces choses au sérieux. Ainsi, lorsque nous prendrons la Pâque, souvenons-nous que nous célébrerons alors cet être majestueux qui a donné sa vie pour nous, cet être majestueux qui a commandé que la lumière soit et elle apparut. C'est ce même être qui, en tant que Dieu des armées de la nation d'Israël, est venu à la rescousse du roi David pour le soutenir dans ses combats. Il était le rocher d'Israël. Ce rocher était Christ. Veuillez maintenant vous reporter à Matthieu 25, où nous trouvons un autre élément qu'il nous faut considérer pour avoir une bonne vision à propos du vrai Jésus-Christ de la Bible. Là, au verset 31, il est dit, Matthieu 25, verset 31, Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, oui, Christ reviendra dans la gloire et entouré d'anges. Les trompettes retentiront, et chaque montagne sera secouée, de même que toutes les îles. On saura que le Créateur est de retour parmi sa création. Ce sera un moment impressionnant. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Verset 32. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres. Qui fera cela? C'est Christ qui fera cela. C'est lui qui viendra alors, pas Dieu le Père. C'est lui qui séparera les brebis d'avec les boucs. Verset 33. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Puis on le voit énumérer les actes de bienfaisance des brebis qui auront fait preuve de zèle pour donner, pour aider et pour servir. Il est vrai que dans d'autres passages, il est plutôt question de ceux qui auront été zélés pour aider, pour servir et pour faire croître l'œuvre de Dieu. Mais au verset 35 et les suivants, l'accent est mis sur la nécessité de faire de bonnes actions, de venir en aide aux pauvres, à ceux qui n'ont rien à se mettre, à ceux qui sont en prison. On nous dit que ceux qui agiront ainsi se mériteront de grandes récompenses dans le gouvernement de Dieu qui sera bientôt établi ici-bas. Voyons maintenant Apocalypse 11, verset 15, où il est fait allusion à l'époque terrible où toute montagne et toute île sera secouée dans ses fondations quand le Créateur reviendra à sa création. Apocalypse 11, verset 15. Le septième ange sonna de la trompette, et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient, Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Donc, une fois encore, on notera que le royaume ne sera pas remis au Père. Le Père a relégué le royaume à Christ. C'est lui qui aura la charge de l'administrer et de le gouverner. C'est aussi à travers lui, Christ, que le Père a communiqué avec Abraham, Isaac et Jacob. De même, il a été l'intermédiaire entre Dieu et Moïse, entre Dieu et David, et tous les autres grands serviteurs de Dieu. C'est donc Christ qui, à son retour, administrera le gouvernement de Dieu sur la terre, et cela pendant une période de 1100 années. Puis la surface de la terre passera au feu, et nous verrons alors apparaître un nouveau ciel et une nouvelle terre. Tant qu'il restera des êtres humains, il semble que Dieu le Père communiquera avec nous par l'entremise de celui qui vint parmi nous en tant que Jésus-Christ. C'est lui qui sera roi de la terre, et son règne sera éternel. Il n'y aura plus de rébellion. Il n'y aura plus personne pour murmurer et contester. Ceux qui voudraient le faire seront relégués aux oubliettes cosmiques. Apprenons donc à bien connaître Christ, car c'est lui qui sera notre chef pendant les siècles à venir. Ce ne sera donc pas Dieu le Père, du moins pas directement. Reportons-nous maintenant au verset 14 du quatrième chapitre du livre aux Hébreux, où il est dit, Hébreux 4, verset 14, Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Ainsi, restez fermes, n'abandonnez pas. Nous avons quelqu'un là-haut qui intercède pour nous auprès du Père. Il est notre Créateur, celui qui a créé les cieux et la terre. Il est celui qui a dit que la lumière soit et la lumière fut. Il est celui qui nous a créés à l'image de Dieu et qui, plus tard, est mort pour nous. Il est notre ami, notre sauveur, notre frère aîné et notre souverain sacrificateur miséricordieux. Verset 15. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. À l'époque où Christ parcourait les collines de Palestine, en tant que jeune adulte, âgé entre 20 et 33 ans, il ressentait clairement les sollicitations de la chair. C'est qu'il avait en tout point la même nature que nous, la nature humaine. Ainsi, lorsqu'il voyait passer de belles filles, cela ne le laissait probablement pas indifférent, et il lui fallait donc contrôler ses pensées. Il voyait qu'elles étaient belles, mais il ne pouvait pas se laisser aller à des considérations d'ordre sexuel, car il était en fait déjà marié. Oui, il était marié à l'ancien Israël. De plus, même s'il ne l'avait pas été, Comment aurait-il pu considérer le mariage, sachant qu'il allait être mis à mort sous peu? Il laisserait alors une veuve, et peut-être même des enfants. Ce n'était assurément pas une bonne idée. Il lui fallait donc amener toutes ses pensées captives à l'obéissance de Dieu le Père, et c'est ce qu'il fit. De même, après qu'il eut donné son premier sermon, c'est dans Luc 4, versets 28 à 30, certains des hommes présents se mirent à le chasser de la ville, avec l'intention de le jeter en bas de la montagne. Mais il réussit à leur échapper. Pensez-vous que Christ n'a jamais ressenti quelque velléité naître en lui? N'est-ce pas lui qui disait « Tout ce que tu trouves à faire avec ta force, fais-le » N'oublions pas qu'il était dans la force de l'âge, qu'il travaillait dans la construction et était habitué de lever de grosses pierres et de lourds madriers. Il devait sûrement être bien bâti pour pouvoir exercer ce métier. Comme il avait la même nature humaine que nous, ne croyez-vous pas que l'idée ait pu l'effleurer de saisir certains de ces belligérants et de les précipiter en bas de la montagne avant que ceux-ci n'aient eu le temps de se saisir de lui? Mais en gardant le contrôle de ses émotions, il nous donna un bel exemple à suivre. Il sublima donc ses mauvaises pensées avant qu'elles ne mènent à des actes, car il savait que leur céder ne mènerait qu'à la violence et à la haine. Lui allait plutôt amener toutes ses pensées captives à l'obéissance de Dieu. Nous avons donc un souverain sacrificateur qui peut comprendre les situations auxquelles nous sommes parfois confrontés. En effet, la Bible ne dit-elle pas, dans Hébreux 4, verset 15, qu'il a été tenté comme nous en toutes choses? Ainsi, il a été tenté par des convoitises sexuelles, tenté par le désir de tuer, de mentir, de voler. Bref, il a été tenté comme nous en tous les points de la loi, excepté que lui n'a jamais péché. Il peut donc nous comprendre. Verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Donc, n'hésitons pas à implorer son aide, comme Christ lui-même n'a pas hésité à le faire lorsqu'il adressa des supplications véhémentes à celui qui pouvait le sauver de la mort. Si nous tenons à être dans le royaume de Dieu, il nous faudra nous aussi suivre le bel exemple qu'il nous a laissé dans Hébreux 5 et le verset 7. Voyons-le, Hébreux 5, verset 7. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, a présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications. Notez l'intensité de ses émotions. Il ne s'est donc pas contenté de prier. Il a adressé à Dieu des supplications, ce qui implique des prières ferventes et chargées d'émotions, des prières répétitives et parfois même accompagnées de jeûnes. L'intensité de ces supplications se traduisait par de grands cris à l'aide adressés à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il a été exaucé à cause de sa piété. Verset 8. Il a appris, bien qu'il soit fils, il était effectivement fils de Dieu à ce moment-là, il a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Oui, il avait cette nature humaine en lui, et Satan s'efforçait par tous les moyens de le faire succomber à celle-ci. C'est pourquoi Christ se devait d'implorer l'aide de Dieu pour ne pas flancher. Verset 9. Après avoir été élevé à la perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Notez que ce salut n'est pas offert à ceux qui se contentent de répéter qu'ils aiment Jésus, à ceux qui s'agitent en tous sens en tapant des mains. Non, ce salut n'est offert qu'à ceux qui lui obéissent. Notez à ce propos comment un Jésus indigné s'exclame dans Luc 6, verset 46, disant « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Il nous faut donc lui obéir. » Le sujet revient d'ailleurs dans Matthieu 19, verset 17, où il ajoute « Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » À celui qui voulait savoir de quel commandement il voulait parler, Christ énumère alors plusieurs des 10 commandements. Le reconnaître en tant que Seigneur signifie que nous le reconnaissons en tant que notre Maître. Le monde ne semble pas faire ce lien. Nous le faisons, et c'est pourquoi nous devons agir en conséquence. À présent, frères et sœurs, tournons-nous vers Matthieu chapitre 27. Nous y voyons Jésus subir des outrages et sur le point d'être crucifié. Au verset 22, nous lisons « Pilate leur dit, « Que ferai-je donc de Jésus, qu'on appelle Christ ?» Au verset précédent, la foule avait demandé qu'on relâche Barabbas. Évidemment, ces gens-là étaient tous séduits. C'est pourquoi ils s'écrièrent d'un commun accord qu'il soit crucifié. Sur ce, Pilate répliqua, verset 23, mais quel mal a-t-il fait? Il s'efforçait d'adopter une attitude de neutralité. Il discernait clairement qu'il avait affaire à un contentieux de type religieux, et il voulait délivrer Christ de leurs mains, tout en s'efforçant d'éviter une insurrection. C'est que les Romains n'aimaient pas les insurrections. Et c'est pourquoi Pilate se rangea du côté des belligérants. Poursuivons, verset 23. Et ils crièrent encore plus fort, qu'il soit crucifié. Verset 24. Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit, Je suis innocent du sang de ce juste, cela vous regarde. À vrai dire, il était coupable lui aussi, car il aurait pu briser la révolte. Il en avait le pouvoir. Il lui aurait suffi de commander 2 légions romaines. Mais voilà, cela aurait provoqué des agitations de foule, et il n'était pas prêt à risquer cela. Il préféra donc rejeter la faute sur les manifestants. Si on analyse un peu la situation, on se rend compte qu'il y avait alors 2 catégories d'individus en présence. D'une part, il y avait les Juifs, d'autre part, il y avait les Romains, lesquels contrôlaient le monde païen. Dieu accepta alors que les dirigeants du monde païen consentent à ce que Christ soit crucifié. Mais il permit aux Juifs, par l'intermédiaire de leur chef religieux, de faire en sorte que ces dirigeants païens exécutent la sentence. En fin de compte, les deux groupes, les Juifs comme les Romains, se rendirent coupables de la mort de Christ. Verset 25. Et tout le monde répondit, Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Parole funeste. Si on en juge par les événements qui ont frappé les Juifs depuis lors. Il est indéniable en effet que, partout dans le monde, la nation juive suscite un ressentiment profond. Et depuis quelque temps, les persécutions ne font que reprendre de plus belle. On les tient responsables. On les blâme pour les choses qu'ils n'ont pas commises. C'est insensé, mais Dieu le permet. Souvenez-vous de ce qu'ils ont dit, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Verset 26. Alors Pilate leur relâcha Barabbas, un criminel, et après avoir fait battre de verges Jésus, il le livra pour être crucifié. Jésus-Christ allait en réalité subir une flagellation. Celle-ci était administrée par un représentant des autorités romaines. Celui-ci allait frapper le condamné avec de longues lanières en cuir, dans lesquelles se trouvaient incrustées des échardes métalliques dont la fonction était de déchirer la chair. Quand la victime avait ainsi la chair à vif, elle était presque méconnaissable. C'était lui faire subir un sort horrible. Si vous avez vu le film Ben-Hur, cela vous a donné une description assez réaliste de ce à quoi Christ devait ressembler après sa flagellation. Pas étonnant donc qu'après avoir subi un tel supplice, il n'ait plus la force de porter sa croix. Simon de Cyrène dut la porter pour lui. Plus loin, au verset 35, nous lisons, Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Nous savons que Jésus fut mis sur la croix vers 9 heures du matin. Puis, au verset 45, nous apprenons que le pays fut plongé dans les ténèbres de la 6e heure, l'équivalent de notre midi, une heure où le soleil devrait normalement briller de tout son éclat, jusqu'à la 9e heure, soit 3 heures de l'après-midi pour nous. Pourquoi cela? C'est parce que la création entrait en convulsion à cause des tourments que subissait son Créateur. En effet, celui par l'intermédiaire duquel Dieu avait créé les cieux et la terre subissait des tourments et était sur le point de mourir. Et c'est alors, à 3 heures de l'après-midi, que Jésus s'écria d'une voix forte, Élie, Élie, lama sabachthani, c'est-à-dire mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il ne disait pas cela uniquement à la manière de quelqu'un qui récite un texte de mémoire. Il le ressentait jusqu'au plus profond de son être, car c'était la première fois qu'une telle situation se présentait. En effet, c'était la toute première fois qu'il se sentait réellement coupé de tout contact avec Dieu. C'est que, en se faisant porteur de tous nos péchés, il devenait soudainement notre véritable agneau pascal. Il prenait ainsi le rôle du bouc de Lévitique 16, qui devait être mis à mort. Il n'est pas dit clairement combien de temps il lui fallut vivre avec cette terrible sensation d'être coupé de Dieu, mais il est certain que c'est avec une émotion intense qu'il exprima ces mots tragiques. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Certains de ceux qui se tenaient aux alentours dirent: Il appelle Élie. Il ne comprenait pas ce qui se passait. C'est ce que confirme le verset 49 où nous lisons: Mais les autres disaient: Laisse, voyons si Élie viendra le sauver. Selon le commentaire d'Adam Clark, certaines versions bibliques nous informent que les manuscrits anciens ajoutent ici, à la fin du verset 49, Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Cela nous permet de mieux comprendre ce qui est dit ensuite, au début du verset 50. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Christ n'est donc pas mort parce qu'il avait le cœur brisé. Non, il est mort à cause de cette lance qui transperça ses flancs et de ce qui s'ensuivit. Le sang du Fils de Dieu fut alors répandu, et nous savons que la vie est dans le sang. Il avait donc donné sa vie pour nous, afin de payer l'amende de nos péchés à notre place. Lui, dans la vie, valait plus que tous les êtres humains réunis. Lui qui avait commandé que la lumière soit, lui qui avait créé les cieux et la terre, lui le Créateur, était mort. La création entra à ce moment-là dans un état de convulsion. Le voile du temple fut alors déchiré surnaturellement de haut en bas, ce voile qui séparait le lieu saint du Saint des Saints. Il se produisit simultanément un tremblement de terre local qui eut pour conséquence de fracturer les rochers et d'entrouvrir des tombes. Puis, après la résurrection de Christ, plusieurs des saints qui étaient morts en Christ furent ramenés à la vie, et on les vit alors entrer dans la ville sainte, à la grande stupéfaction de tous ceux qui en furent témoins. Des événements très marquants, à n'en pas douter. Veuillez maintenant vous tourner vers Philippiens, le chapitre 2. Au verset 3, il est dit, Philippiens 2, verset 3, Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. Frères et sœurs, notez-le, il nous faut le garder à l'esprit constamment et ne pas céder à cette mauvaise habitude qui nous assaille si facilement, et cela qui que nous soyons. Il nous faut faire croître l'œuvre. Nous voulons aider notre prochain, mais ce désir ne doit pas être motivé par une soif de prestige, mais plutôt dans le but que Dieu soit honoré, Dieu et Christ. Notre ambition devrait donc être d'émuler Christ. Donc, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Verset 4. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. S'occuper de ses propres affaires est aussi nécessaire. Ainsi, il nous faut brosser les dents. Ce n'est pas aux autres à le faire, à moins que vous n'ayez un sérieux handicap. Mais cela dit, il nous faut pareillement avoir à cœur le bien-être de notre prochain. Souhaiter qu'il ait une vie décente et paisible, que son mariage soit heureux, qu'il ait un logement adéquat et assez à manger. Pour ceux qui ont été appelés par Dieu à cette époque, il nous faut espérer et prier avec ferveur que Dieu leur accorde le privilège d'être de la première résurrection. Verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Il est vrai que Jésus était animé d'un profond désir d'aider et de donner. Lui et Dieu le Père nous ont créés à leur image, afin que nous puissions un jour partager leur niveau d'existence en tant que membres de la famille divine, et cela pour l'éternité. Voilà à quel point il s'intéresse à nous. Poursuivons. Versets 6 et 7. Existant en forme de Dieu, il était en effet le Logos, le porte-parole de Dieu dès le début, le second membre de la famille divine. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même. C'est le terme grec kénosis qui a été ici traduit par dépouiller. Oui, en venant dans la chair, Christ avait accepté de se départir de la puissance, de la gloire et de la magnificence dont il jouissait auparavant. Il avait été Dieu depuis l'éternité passée, et il avait accepté de renoncer à ce statut. Quelle belle preuve d'amour, d'humilité et de service. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et il a paru comme un vrai homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Oui, il accepta non seulement un rôle de serviteur, il permit même que des êtres humains, qui lui devaient pourtant la vie, abusent de lui de toutes sortes de façons. En effet, on le roua de coups, on le piétina, on le tortura, on alla même jusqu'à le maudire et finalement le faire mourir. La mort dont il eut à souffrir était sans nul doute un des plus pénibles châtiments qu'on puisse imaginer. Certains crucifiés restaient ainsi sur la croix pendant 4 à 6 jours. Vers la fin de leur supplice, leurs intestins allaient enfler, puis éclater en répandant la matière en décomposition qui s'y était accumulée. Réellement, une mort lente, horrible. Dans sa miséricorde, Dieu abrégea les souffrances de Christ. À un moment donné, après avoir été agacé quand Jésus se mit à gémir, un jeune conscrit de l'armée romaine lui enfonça violemment sa lance dans le côté. C'est alors que Jésus lança ce grand cri et que son sang jaillit. Il mourut sur le coup. Son agonie sur la croix fut ainsi coupée court après 6 longues heures. Il avait accepté ce supplice en sachant d'avance ce qui l'attendait. Verset 9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, c'est-à-dire au-dessus de toute autorité et de toute puissance dans l'univers. Verset 10. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Frères et sœurs, il nous faut donc faire ce que notre Seigneur nous demande. Il nous faut honorer notre Seigneur par notre façon de vivre. Alors que nous nous apprêtons à prendre la Pâque, comprenons bien à quel point nous sommes faibles. Nous ne pourrons jamais réussir par notre propre force. Christ devra nous pardonner nos fautes, nos rechutes à maintes et maintes reprises. Ainsi, à l'approche de la Pâque, j'espère que nous nous mettrons tous à genoux, en étant bien conscients que nous n'adressons pas nos prières et nos supplications au petit Jésus dans la crèche, mais à celui qui avait été avec Dieu depuis l'éternité passée. Nous nous présentons en effet devant celui par qui Dieu créa les cieux et la terre et tout ce qui est. C'est lui qui a créé les êtres humains, qui a fait l'homme et la femme, lui encore qui a commandé que la lumière soit et la lumière fut. C'est lui aussi qui fut le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, celui qui envoya son tonnerre pour disperser les ennemis d'Israël. Il est celui qui se porta maintes fois au secours de David, pour finalement se dépouiller de toute sa gloire et venir s'offrir en sacrifice dans le but de nous racheter de nos péchés et de pouvoir ainsi nous réconcilier avec Dieu. Nos prières sont adressées à cet être majestueux qui est simultanément notre souverain sacrificateur fidèle et miséricordieux qui est assis à la droite du Père. Il fut comme nous tenté en tout point, mais sans jamais pécher. Il sera notre juge, car il saura contre quoi nous avons dû lutter. Il sera aussi notre roi pour toujours, dans le royaume et dans la famille de Dieu, dans laquelle nous pourrons entrer après notre résurrection, pourvu que nous ne cessions d'implorer l'aide de Dieu, selon l'exemple qu'il nous a donné lui-même.